Donc Luc chapitre 1, versets 46 à 56. Voilà, verset 46, il est dit, « Et Marie dit, mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante, car voici désormais toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint, et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras, il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône, et il a élevé les humbles. Il a rassasié de bien les affamés, il a renvoyé les riches à vide. Il a secouru Israël, son serviteur, et s'est souvenu de sa miséricorde, comme il l'avait dit à nos pères, envers Abraham et sa postérité pour toujours. » Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle retourna chez elle. Marie va être choisie par le Seigneur. Il vous expliquera pourquoi il l'a choisie elle un jour. Mais en tout cas, il l'a choisie elle pour porter ce fameux Messie qui était attendu par Israël depuis longtemps. Et évidemment, on a vu tout à l'heure avec Rémi qu'Israël, même s'ils attendaient d'une certaine manière, ne cherchait pas vraiment à le voir venir. Et pendant une visite à Élisabeth, qui était une parente à elle, elle va éclater de joie. Ça vous arrive d'éclater de joie ? Vous me faites une tête ce matin. J'aimerais qu'on éclate de joie ce matin. Parce que c'est ça ce qu'elle a fait. Elle était heureuse. Alors est-ce que Noël, ça vous rend heureux ? Pas les cadeaux, hein. Je veux parler de savoir que Jésus-Christ allait venir sur terre. Ça y est, vous êtes réveillés, c'est bien. Un cantique qui est plein de joie et qui trouve surtout une inspiration, et c'est ça qui est important et on va développer. Elle connaissait Dieu. Et c'est pour ça qu'elle peut éclater de joie. Et elle avait une connaissance particulière de Dieu, et on va en reparler un petit peu tout à l'heure. Et ce cantique, ça devrait être le nôtre, en fait, aujourd'hui. Enfin, pendant cette période de Noël, et chaque matin, on devrait se lever avec la joie de savoir que Jésus est né, qu'il m'aime, qu'il a fait tant de choses pour moi. C'est comme ça que vous vous levez le matin ? Ah oui, hein ? Mais elle a éclaté de joie et elle a partagé cela. Et vous savez, c'est un message qui a été transmis depuis de génération en génération en génération. Première chose qu'on peut apprendre, c'est que Marie se réjouit parce qu'elle peut servir Dieu. Vous vous réjouissez de vous dire que vous allez servir Dieu ? Vraiment, il faut pousser les chrétiens à servir Dieu. Hein. C'est plutôt l'inverse. Il faut un peu même mettre le bâton pour qu'ils se mettent en marche. Mais elle, elle est contente de servir Dieu. Mais ce service, ce n'est pas possible parce qu'elle est une femme ou parce qu'elle a des qualités, mais parce qu'elle a une foi, une humilité et une certaine obéissance à Dieu. Si on pourrait passer longtemps à parler de cette femme, mais elle avait de la foi. Hein. Et c'est Élisabeth, justement, un petit peu avant qu'elle éclate de joie, qui va saluer cette foi. Hein. Et il dit un peu plus haut que Marie croit dans la parole et dans son accomplissement. Marie croit que Dieu peut faire un miracle. Vous avez déjà vu un bébé naître que d'une maman et du Saint-Esprit ? Il n'y en a eu qu'un seul. Évidemment, il faut beaucoup de foi pour le croire. Si on vous l'avait dit à vous, vous l'auriez cru ? Enfin, je parle aux dames, là, peut-être. Hein. On dit, il est bizarre. Hein. Mais elle avait la foi. Elle croyait que Dieu pouvait faire un miracle. Et l'ange dit que rien n'est impossible à Dieu. Donc, pour moi, ça veut dire que tout devient possible pour celui qui croit. Alors, évidemment, dans la mesure de la volonté de Dieu, mais en tant que chrétien, et c'est ce que nous dit Marie, quelque part, elle croit en Dieu et elle sait que Dieu peut absolument tout faire pour elle et donc pour moi. Est-ce que je marche de cette manière-là dans ma vie chrétienne en sachant que tout est possible à Dieu et donc, ben voilà, tout va bien en fait dans ma vie, non ? Il y a des difficultés, mais Dieu sait, tout est possible à Dieu. Il peut m'aider dans ces problèmes-là. Une femme de foi, une femme qui était humble aussi. Elle parle d'elle-même en parlant de la bassesse de sa servante. Elle ne se regarde pas dans le miroir en disant « Hey, moi je suis la mère de Jésus hein. ». Non, elle se regarde en disant « Je suis qu'une simple servante ». Elle a un vrai regard sur elle-même en fait. Elle sait qui elle est vis-à-vis de Dieu. Elle sait qu'elle est pécheresse. Elle sait qu'elle est quelqu'un de tout à fait simple. Elle ne s'enorgueillit pas, malgré la faveur qui va lui être faite d'être la maman de Jésus, de porter en tout cas Jésus. Je pense que si c'était d'autres personnes, peut-être qu'ils se seraient dit quand même, écoutez, c'est quand même moi qui ai porté Jésus, hein, regardez-moi. Et c'est ce qu'on essaie de faire aujourd'hui, et là c'est avec Marie. Hein. Mais ce n'était pas sa volonté à elle. C'est aussi une femme qui est choisie, mais qui obéit à Dieu. Hein. Dieu l'a choisie pour être sa servante. Comme il est dit, Dieu a jeté ses yeux sur elle. Et quel honneur il a fait à Marie ce jour-là. Marie, elle aurait pu dire, écoutez, j'ai autre chose à faire, moi j'ai du ménage, j'ai pas envie d'être la maman de Jésus. Elle aurait très bien pu réagir comme ça, hein, parce que quand on sait ce qu'elle va devoir vivre ensuite avec son fils, je sais pas si tout le monde aurait voulu être la maman de Jésus, ou accepter en tout cas ce service. Mais il y a un honneur qui a été fait à Marie. Et Dieu savait très bien qui était Marie, hein, sinon elle l'aurait pas choisi à mon avis, et il saura accomplir la mission que Dieu lui avait confiée. Quand Dieu s'adresse à quelqu'un, c'est qu'il sait aussi que la personne va pouvoir faire la chose, évidemment. Donc une femme de foi, une femme qui est humble, une femme qui est choisie et qui obéit à Dieu. Et puis ce service va devenir un témoignage intemporel, puisqu'on connaît tous ce Magnificat, hein, c'est la même chose que le Cantique de Marie, mais toutes les générations la diront bienheureuse. Et je rajoute pas mère de Dieu, c'est pas la même chose. On la dira bienheureuse, parce qu'elle a vécu certaines choses, mais elle n'est pas la maman de Dieu. Dieu était avant Marie. Marie est née bien après. C'est pas elle aussi, parce qu'on entend souvent qu'il transfère des bénédictions aux gens. Marie, c'était une femme comme vous, enfin, comme vous, mesdames, hein, pas comme nous, monsieur. C'est une femme comme n'importe qui, et elle a été bénie de la même manière que nous sommes bénis par Dieu. Hein. Elle n'a aucun pouvoir d'apporter une bénédiction, sinon celle de son témoignage. Et l'exemple qu'elle a laissé au travers des siècles. Hein. Et je pense que l'exemple, ce n'est pas le fait d'avoir été la maman de Jésus, c'est surtout la foi qu'elle avait. Je ne sais pas si moi je vous disais, mesdames, voilà, vous allez voir un bébé qui va naître, qui va grandir et qui va bientôt mourir sur une croix à l'âge de 33 ans. C'est jeune quand même, hein, quand on y pense. Est-ce que vous êtes d'accord d'être maman de ce genre d'enfant? Les mamans, là. Ça donne pas envie. Hein. Je suis d'accord avec vous. Mais sa foi a été à toute épreuve et elle a accepté d'aller jusqu'au bout. Et de génération en génération, cette foi, justement, est venue jusqu'à nous. Marie nous apprend qu'il y a beaucoup de joie à servir Dieu. Comme j'ai dit tout à l'heure, nous, en tant que chrétiens, des fois, on a du mal. Il faut se lever, il faut travailler. C'est dur de servir Dieu, non? Et vous me dites oui, en plus. Ah, bravo. Oui, mais on est comme ça. Alors que Marie, elle apprend qu'elle va devoir servir Dieu. Ce n'est pas juste un petit peu, c'est toute une vie quand même, hein, au moins 33 ans avec son fils. Et elle est pleine de joie. Donc la prochaine fois que je vous dis, on va servir Dieu, qu'est-ce que vous faites? Chiz, hein, un petit sourire, j'espère. Mais elle a beaucoup de joie parce qu'elle va obéir à Dieu et le fait d'obéir à Dieu, c'est ça qui produit la joie. Et c'est aussi sa récompense. Vous savez, quelqu'un qui se met à servir Dieu, il est heureux après le service, parce qu'il sait ce qu'il a fait bien, parce qu'il sait qu'il a obéi à Dieu. Mais si je ne commence pas à servir, je ne saurai jamais ce que c'est. C'est ça le problème. Il faut faire le premier pas. Elle a sa récompense, même s'il va y avoir beaucoup de douleur après. Mais elle va laisser un exemple, tout simplement, pour nous. Pas un exemple d'idolâtrie, parce qu'aujourd'hui, on idolâtre Marie, c'est pas ce qu'elle voulait du tout, à mon avis. Hein. Ça, c'est les hommes qui ont inventé quelque chose. Mais elle a laissé un message d'humilité et de service. Ça, c'est Marie, quelqu'un d'humble et qui a voulu servir absolument son Seigneur. Et elle se réjouit avant de servir. Hein. Elle dit « son âme exalte ». C'est pas le petit « ouais, je suis content d'aller servir ». Il y a vraiment quelque chose qui est profond en elle. Hein. C'est son âme, c'est tout son être qui est heureux. Le mot en grec veut dire faire éclater, louer hautement. C'est vraiment une louange, une grande louange. Elle adore Dieu de pouvoir le servir. Alors nous, on dit des fois, de temps en temps, merci parce que j'ai pu servir, mais adorer Dieu pour servir, le jour où on en sera là, ça va changer l'Église, à mon avis. Hein. Mais elle sait que c'est un grand honneur pour elle que de servir Dieu. Et si nous-mêmes, dans notre service, dans le don que Dieu nous a donné, nous comprenions que c'était un honneur que Dieu nous fait et qu'il faut le mettre en place, alors ça changerait complètement peut-être ma perspective de la vie chrétienne. Elle serait peut-être moins fade, moins tristounette, on va dire. Son âme exalte, son esprit aussi se réjouit. Donc c'est vraiment toute la personne de Marie qui est en train de se réjouir. Hein. Le mot réjouir, c'est, elle parle d'allégresse, de joie, exulter, se réjouir fortement. Quand vous avez gagné 5 millions d'euros, vous êtes comment? Vous verrez le jour où vous gagnez 5 millions d'euros. Mais ça, ce n'est pas important, parce que ça ne sert à rien. Mais elle avait cette joie-là, justement, de savoir qu'il se passait quelque chose dans sa vie, et elle était pleine de joie. Elle était vraiment contente de savoir qu'elle allait être cette simple femme, mais cette simple femme qui allait faire partie du plan de Dieu. Et pas n'importe quel plan, parce qu'elle va quand même en baver un petit peu, mais elle était contente de faire partie du plan de Dieu. Alors on se dit, oui, mais ça c'est Marie, c'est Joseph, c'est tous ces gens, c'est Paul, etc. Mais chacun d'entre nous faisons partie du plan de Dieu. si on se met à servir réellement. On n'est pas tous des pasteurs, on n'est pas tous des diacres, on n'est pas tous des missionnaires, mais on a tous un don, on a tous un service, on a tous quelque chose à faire pour Dieu, et ça, c'est le plan de Dieu aussi. J'intègre le plan de Dieu, à condition évidemment que je dise, ok, je suis d'accord de servir. C'est tout son être, donc son âme, son esprit, son corps, qui se réjouit, et il y a vraiment un impact là du service qu'elle va rendre, et ça produit là la joie. Pour nous, aujourd'hui, cette femme nous apprend que Dieu voit la foi et l'humilité de chacun. On est nu devant Dieu. Il ne faut pas croire que je puisse cacher quelque chose à Dieu. Dieu sait le nombre de cheveux que j'ai sur la tête, donc il sait aussi ce qui se passe dans mon cœur. Et il sait si je peux ou pas. Est-ce qu'il peut me confier quelque chose? Est-ce qu'il peut se servir de moi? Ou chaque fois qu'il dit, j'aimerais bien que Emmanuel se mette au travail, moi je dis, fatigué, restez dans mon lit. Ou j'ai pas le temps, j'ai des courses à faire, j'ai ci et ça à faire. On a toujours des excuses, en fait, pour servir. Mais Dieu le voit. Il faut pas croire qu'à un moment, on se retrouvera pas devant Dieu, et Dieu nous évaluera, il regardera et dira, mais combien de fois je t'ai appelé? Combien de fois je t'ai demandé de te mettre ton don en pratique? Qu'est-ce que tu en as fait? C'est aussi ça, Noël, se souvenir de ces choses-là. Le chrétien devrait être honoré de servir Dieu. Franchement, vous imaginez que le grand Dieu, là-haut, majestueux, etc., me regarde, moi, tout petit homme, et dit, je te confie quelque chose. Il pourrait se dire, écoutez, moi, je suis Dieu, je fais ce que je veux, comme je veux, parce qu'il peut le faire. Il n'a pas besoin de nous, on est des serviteurs inutiles, mais il décide quand même, à un moment, de nous confier certaines tâches. Vous vous sentez honoré ou pas? Ou alors abattu parce qu'il faut travailler? C'est un honneur, mais c'est... Pensez-y, c'est vraiment un honneur. Et puis Éphésiens 2.10 nous dit qu'il a préparé des ouvrages à l'avance pour que nous les regardions. C'est ça, non? Pour que les entendions, pour que nous les pratiquions. Ça veut dire qu'avant même qu'on soit né, Dieu a décidé que Emmanuel va faire certaines choses. Voilà. Et il a dit, voilà, maintenant c'est à toi de le faire. J'ai répondu oui, je ne sais pas si je suis parfait dans ce domaine, mais j'ai répondu oui au moins dans certains domaines. Dieu vous a préparé chacun bien avant la fondation du monde en disant que vous avez chacun un rôle et un travail à faire dans l'Église. Est-ce que vous savez lequel c'est? Et Noël, ça nous rappelle aussi ces choses-là. Et puis, ce témoignage qu'avait Marie, on peut se poser la question du témoignage de notre Église. Est-ce que notre Église sera là encore dans 1000 ans? Je ne sais pas si elle sera encore là dans 1000 ans, peut-être que le Seigneur sera revenu. Mais quel impact a notre témoignage? On pourrait parler personnellement, mais aussi en tant que communauté. Est-ce que ce témoignage va durer 10 ans après que la petite génération va passer, ou est-ce qu'il va perdurer? Est-ce qu'on prépare nos enfants justement à cela aussi, pour que justement le témoignage continue? Ça ne dépend pas du pasteur. Si je meurs demain, vous débrouillez. Moi, je suis au ciel, tranquille. Mais vous, il faut continuer, évidemment. Donc c'est à réfléchir aussi, toutes ces choses-là. Quel est ce témoignage que nous portons dans cette Église ou individuellement? Est-ce qu'il dure? Est-ce qu'il est connu? Est-ce qu'il est vu? Et Noël, c'est la meilleure des occasions de rappeler qu'on est chrétien et de faire rappeler ce qu'est vraiment Noël. Le service, c'est un honneur. J'aimerais qu'on se sente honoré, pas abattu, honoré de pouvoir servir Dieu. Et c'est vraiment... Dieu nous fait confiance. Je ne sais pas si vous l'imaginez quand même. Il n'y a pas besoin de nous, mais il nous fait confiance quand même et il veut qu'on se mette au travail. Et comme Marie nous le montre, le fait d'obéir, d'accepter la mission, ce n'est pas la tristesse, c'est la joie, c'est l'honneur, c'est se réjouir justement. Et tout ça, c'est la reconnaissance aussi dans son cœur qui va jaillir. Donc servir, ça rend heureux. On va voir ça cette année, si ça nous rend heureux. Une deuxième chose qu'on peut apprendre dans ce texte, c'est que Marie se réjouit parce qu'elle connaît Dieu. Et là, c'est important. D'une certaine manière, elle est en train de faire une confession de foi. Premièrement, elle confesse les titres divins, ceux de Dieu. Elle connaît son Seigneur. C'est le Seigneur qu'elle exalte. Là, elle parle évidemment de Dieu parce que Jésus n'est pas encore né. Mais bon, par préfiguration, on pourrait dire qu'elle parle aussi de Jésus. Mais là, elle exalte celui qu'elle connaît. Je ne peux pas me réjouir ou adorer quelqu'un que je ne connais pas. C'est logique, quelque part. Mais elle le connaissait. Son obéissance et sa joie démontrent justement aussi la seigneurie de Dieu sur elle. C'est quelqu'un qui était soumise à Dieu. Et pour être soumis à Dieu, il faut aussi connaître Dieu. Si quelqu'un vient dans la rue et vous dit « Sois soumis à moi », qu'est-ce que vous lui dites? Allô, police. On est d'accord. Quelqu'un qui est inconnu et qui me demande de me soumettre à lui, je lui dirai toujours non. Mais en tant que chrétien, des fois, on ne connaît pas assez Dieu et donc on ne peut pas forcément se soumettre à Dieu. On ne sait pas ce qu'il veut, on ne sait pas qui il est, on ne sait pas ce qu'il peut pour moi. Donc forcément, je vais être un peu prudent avec lui et je ne vais pas faire comme Marie qui s'abandonne pleinement. Elle connaît aussi son sauveur parce qu'elle dit quelque chose d'important en Dieu, mon sauveur. Marie dit elle a besoin d'un sauveur, elle a besoin d'être sauvée, elle a besoin du salut et elle croit à ce salut. Par avance, hein, puisque on peut imaginer qu'elle pensait que Jésus allait un jour être ce sacrifice, mais elle avait besoin d'un sauveur. Ce n'est pas une immaculée conception. Hein. Marie était pécheresse comme chacun d'entre nous. Hein. Et elle avait besoin d'un sauveur et elle l'acceptera plus tard comme sauveur. Elle n'était pas parfaite. Elle était pécheresse, elle était avec ses péchés et elle savait qu'elle avait besoin d'être pardonnée, qu'elle avait besoin de quelqu'un justement qui lui offre ce pardon et cette grâce. Mais en même temps, j'ai l'impression qu'elle dit que c'est autant un sauveur spirituel, il y a quelque chose qui, quelqu'un qui l'arrache de l'enfer, mais un sauveur aussi au quotidien, dans le sens où on peut compter sur Jésus dans toutes les circonstances de notre vie, à condition évidemment qu'on s'en souvienne, qu'on le connaisse et qu'on lui demande. Vous savez, Dieu est à côté de nous tous les jours. Hein. Tous les jours, il est là. Seulement, bah, si moi j'en ai pas conscience, si je lui demande rien, il ne nous forcera jamais non plus. Dieu force personne. C'est à moi de lui poser la question et de lui demander son aide, tout simplement. Et Dieu va m'aider. Il faut en avoir conscience. Et puis dans un deuxième temps, elle va confesser les attributs divins. Elle parle du Tout-Puissant au verset 49. Hein. Marie se souvient de ce que Dieu a fait pour elle. Et elle dit de grandes choses. Est-ce que ça fait des grandes choses pour vous ? Quoi ? Allez, tiens, on profite. Pardon ?
Il nous a sauvés.
C'est pas mal, hein ? Bon, on est habitué maintenant d'être sauvés. Hein. Qu'est-ce qu'il a fait comme grande chose aussi ? À part le salut. Cette année, qu'est-ce qu'il a fait de plus grande chose pour vous ? Il faut réfléchir, là. Hein. Mémoire.
Il est mort pour nous.
Ça, on l'a déjà dit. Ça, c'est un peu faillot. Ça, on le sait. Mais est-ce qu'on peut prendre le temps de réfléchir pendant cette période de Noël, de voir tout ce qui s'est passé durant mon année et de me dire quelles sont les grandes choses que Dieu a fait pour moi ? Parce qu'on passe souvent le temps très vite, hein, et je sais, on court tous dans tous les sens, mais c'est bien de s'arrêter un moment, comme fait Marie à ce moment-là, et de se dire, tiens, Dieu a fait de grandes choses pour moi dans ma vie. Mais si je ne le fais pas, je ne vais pas avoir cette joie et cette reconnaissance qui va jaillir. Parce que j'oublie, parce qu'on a une mémoire comme ça qui passe très vite. Mais c'est bien de s'arrêter et de se souvenir que Jésus a fait des grandes choses, hormis le salut, ce qui n'est pas le moindre, mais il a aussi fait des choses dans notre vie au quotidien. Hein. Prenez le temps d'y réfléchir. Vous savez, quand on le fait, ça réjouit, ça renforce la foi, ça m'encourage pour aller de l'avant. Elle connaissait le Dieu Tout-Puissant. Elle savait qu'il pouvait faire tout. Et quand elle est venue lui dire qu'elle va enfanter par le Saint-Esprit, elle ne s'est pas mise à réfléchir par la logique, oui, mais normalement c'est un monsieur, c'est une dame, etc. Elle a accepté par la foi, tout simplement. Parce que Dieu est tout-puissant, pas parce qu'elle était capable de l'accepter, mais elle savait qu'il était Dieu. Elle connaît aussi Dieu par sa sainteté, hein, toujours dans le verset 49. Cette sainteté de Dieu, à mon avis, c'est ce qui l'a poussé à s'humilier aussi et réaliser son péché. Réaliser que, ben voilà, je suis dans un état de pécheur, de pécheresse, et que devant la sainteté de Dieu, je ne peux que m'agenouiller, hein, que je ne peux que demander pardon. Et quand on connaît la sainteté de Dieu, il y a aussi des exigences qui sont quelque part liées à cela. Si je sais que Dieu est saint et que je suis pécheur, qu'est-ce que je fais ? Je demande pardon pour mon péché. Je veux aussi vivre pieusement. Hein. Alors on est loin d'être parfait en tant que chrétien parce qu'on est encore pécheur, hélas. Mais si j'en ai conscience et que je sais que Dieu est saint, je vais essayer de m'arrêter. Des fois, il y a des péchés, il faut du temps. Il y en a d'autres, on peut arrêter plus vite. Mais au moins, j'ai envie de m'arrêter. Et ça, c'est déjà une bonne chose. Elle connaît aussi le Dieu miséricordieux, hein, qui est miséricordieux d'âge en âge. C'est une miséricorde qui est sans fin et pour tous les hommes. Dieu nous aime profondément. Et il est prêt à nous pardonner tout ce qu'on a fait. Quand même extraordinaire, quand on y pense. Tu aurais pu très bien dire, écoutez, vous me saoulez. C'est moi qui le dis, mais il aurait pu très bien. Mais il nous aime. Et à cause de son amour et de sa miséricorde, il a décidé d'être patient à notre égard, très patient à notre égard. Mais il parle quand même d'une miséricorde conditionnelle, puisqu'il dit elle s'étend sur ceux qui le craignent. Ah. Parce que de toute façon, si je ne crains pas Dieu, je n'ai pas besoin de sa miséricorde de toute façon. Je n'ai pas besoin de son salut, je n'ai pas besoin de demander pardon pour mes péchés. Mais cette miséricorde, c'est surtout ceux qui l'ont acceptée, qui la reconnaissent dans leur vie. Et combien de fois, prenez le temps depuis le début de votre vie chrétienne, combien de fois Dieu nous a pardonné? Jamais c'est dit, non, stop, il y en a marre, je suis fatigué là. Hein. Chaque fois qu'on se repent, qu'on se met à genoux devant lui, il dit, je te pardonne. C'est ça la miséricorde de Dieu. Combien de fois vous avez pardonné, vous, à vos familles, à vos voisins, à, je sais pas, votre mari, votre épouse, etc. Peut-être pas autant de fois, hein, on a du mal des fois. Mais Dieu, chaque fois, est prêt à nous pardonner, à condition évidemment qu'on le craigne. Et si on le craint, on se repent, forcément. Pour nous, aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on puisse faire de Dieu notre sauveur, mais aussi notre Seigneur. Souvent, on accepte Jésus dans sa vie pour qu'il me sauve, mais on oublie toujours sa seigneurie. Un seigneur, à l'époque féodale, c'est quelqu'un qui avait un vassal, et puis il obéissait au droit, à l'œil. S'il n'obéissait pas, oui, on en cherche un autre. C'était tout. Heureusement, Dieu n'est pas comme ça avec nous. Non. Vous imaginez la première fois qu'on aurait désobéi, oui, il n'y aurait personne dans la salle. Moi le premier. Bon, c'est juste pour une image. Je pense que Dieu ne veut pas une seigneurie dictatoriale, mais une relation, comme un enfant et un père, mais tout en reconnaissant qu'il est le Seigneur. Vous savez, quand Jésus va poser ses pieds sur la terre un jour, quand il va instaurer son royaume, quand on le verra dans sa gloire, affaire bizarre à mon avis, ça va nous calmer. Parce que là, on imagine Dieu gentil, alors dans une petite crèche, hein, aujourd'hui. Non, mais quand vous verrez la gloire de Dieu, à mon avis, ça va faire peur, très peur. Peut-être pas cette peur effrayée, mais en tant que chrétien, c'est la crainte de Dieu, justement, qui va jaillir, je pense, dans notre vie. Donc faisons de Dieu notre Sauveur et Seigneur, celui à qui je veux me soumettre volontairement. Je pourrais venir avec un bâton et soumettre les uns et les autres. Dieu, il pourrait faire ça, mais il veut que ça soit un acte volontaire, comme Marie l'a fait. On ne l'a pas prié, elle a accepté de servir Dieu. Apprenons aussi, nous, à connaître Dieu comme Marie. Hein. C'est-à-dire, plus je connais Dieu dans sa personne, dans son caractère, dans sa majesté, plus je peux compter sur lui, tout simplement. Vous ne comptez pas sur quelqu'un que vous ne connaissez pas, vous ne ferez pas confiance à cette personne-là. Mais comment est-ce qu'on apprend à connaître Dieu? Toujours la même chose, il faut lire la Bible. Mais pas que Matthieu, Marc, Luc, Jean, pas que les psaumes. Dieu est dans Jonas, Dieu est dans Abias, Dieu se trouve dans Néhémie, Dieu se trouve dans la Genèse, dans l'Exode, Lévitique, partout, vous trouverez une facette de Dieu. Et au fur et à mesure, on peut assembler ce grand puzzle pour connaître qui est vraiment Dieu. On a un an devant nous, là. Hein, c'est la fin de l'année, alors on va se dire, allez, on fait un peu de repos, mais on va reprendre pendant un an. Et en un an, on peut lire la Bible. C'est vrai. Ah, oui. Par contre, en un an, combien de fois vous aurez regardé des émissions télé, bateau, excusez-moi le terme, combien de fois vous aurez regardé des choses ou écouté des choses qui ne vous servent pas à grand-chose finalement? Je n'ai rien contre la télé, hein, mais bon. Mais si elle prend le dessus par rapport à la connaissance de Dieu, c'est bien dommage. Si je connais mieux les présentateurs de télé que Dieu lui-même, il y a un problème, quelque part. Et puis connaître Dieu, si je connais vraiment Dieu, ça va me conduire à l'humilité. Hein. L'humilité, ça ne vient pas comme un réflexe. Ça s'apprend, je pense. Et ça s'apprend surtout vis-à-vis de Dieu. Parce que le Dieu saint me fait connaître sa miséricorde et sa grâce. Et quand je comprends cette miséricorde, ce pardon qu'il m'a offert, je n'ai pas envie de frimer. Ça m'humilie quelque part. Il faudrait vraiment qu'on ait... C'est dommage qu'on ne puisse pas aller se balader devant la croix quand Jésus est mort à ce moment-là. Pour qu'on puisse vraiment comprendre ce qu'il a souffert pour nous. Vraiment. Et quand on sera devant cette croix, à mon avis, on ne fera pas les fiers. On sera plutôt en train de s'humilier et reconnaître qui on est dans notre vie. Mais on n'a pas besoin d'aller devant la croix, on le sait que c'est vrai. Et justement, le fait de connaître Dieu, son œuvre pour moi, tout ce qu'il a fait, ça devrait me conduire à l'humilité. Et Marie était comme cela. Mieux connaître Dieu rend heureux. Connaître Dieu rend heureux. Parce que des fois, on cherche, hein, comment je pourrais être plus heureux? Ben, apprenez à connaître Dieu, tout simplement. Ça rend heureux et ça apporte aussi de la confiance dans notre vie de chrétien. Et on en manque bien souvent face au croisement de la vie, face aux épreuves, face aux difficultés. On panique parce qu'on ne connaît pas assez Dieu. On est des êtres humains, on est bien d'accord. Mais quand même, il y a des manières de paniquer et d'autres, non. Et puis une troisième chose que nous apprend Marie, c'est de se réjouir des œuvres parfaites de Dieu dans ce monde et vis-à-vis d'elle aussi. D'abord, elle va parler de choses négatives, les œuvres à l'égard de ceux qui ne craignent pas Dieu, parce que beaucoup de gens aujourd'hui ne veulent pas de Dieu, ne le craignent pas, et le problème c'est qu'elle dit que Dieu est plus fort qu'eux. Dieu est plus fort que les orgueilleux. Le bras de Dieu est plus fort que les pensées orgueilleuses. Tous ces grands, tous ces gens qui ont l'ego gonflé, qui arrivent à dominer pour l'instant ce monde, ils oublient que Dieu est souverain. Eux, dans leur tête, peuvent dire « Non, non, il n'existe pas. » Et Dieu existe, qu'il le veuille ou non. Et à la fin, c'est Dieu qui aura le dernier mot. Hein. Gonflé d'orgueil autant que vous voulez, Dieu est fait juste « Pouf !» C'est fini, vous n'êtes plus rien. Je ne sais pas si vous connaissez Nebuchadnezzar, le roi qui était un grand roi et qui avait vraiment conquis des territoires. Et du jour au lendemain, il a mangé de l'herbe par terre parce que Dieu l'avait décidé. Et elle dit aussi, il va disperser, le mot veut dire vaner, dissiper, éparpiller. Quelque part, elle dit, Dieu va juger à un moment ce monde. Il l'a déjà fait, mais il le fera aussi à la fin des temps. Et tous ceux qui refusent de croire, ou qui se croient peut-être plus forts que Dieu, qui n'ont pas besoin de Dieu, eh bien Dieu va les juger en son temps. On peut passer toute une vie en narguant Dieu, ou en se disant, j'ai le temps peut-être de le connaître, ou être plein d'orgueil. Mais à la fin, je serai devant lui, que je veuille ou non. Et il me jugera. Donc, autant réfléchir avant ce moment terrible, pour ceux qui le refusent, et plutôt l'accepter dans sa vie. Dieu est souverain sur les rois et lui puissant, elle nous dit au verset 52. Et il l'a démontré dans l'histoire. On connaît tous l'histoire de Pharaon, hein, quelqu'un de puissant qui se prenait lui-même pour un dieu, avec un petit dé, évidemment. Et pourtant, quand Dieu arrive, il délivre le peuple comme il veut. Nebuchadnezzar, on en a parlé, enfin... Des grands sont passés dans ce monde, ont envahi pendant un certain temps, ont fait des conquêtes, mais à la fin, c'est toujours Dieu qui a le dernier mot. Et quand Dieu a décidé qu'un royaume s'arrête, et il l'a prophétisé même dans Daniel, par exemple, il y avait 4 royaumes qui devaient passer, et bien Dieu dit, c'est fini. Voilà. Et les hommes pensent qu'ils peuvent agir comme ils veulent. Les rois sont limités par la souveraineté de Dieu, et ça, chez Marie, certainement, elle se sait protégée par Dieu, justement. Si Dieu est capable d'arrêter ces grands, que nous, quand on les regarde, on tremble quelque part. Mais si Dieu est capable d'arrêter ces grands-là, bah, qu'est-ce que Dieu peut faire pour moi, alors? Des petites choses? Des grandes choses, j'entends. Hein? Des grandes choses. Si Dieu est capable d'arrêter ces grands-là, eh ben moi, je me sens protégé, alors. Je me sens complètement protégé par Dieu. Est-ce que vous vous sentez protégé à ce moment-là, par Dieu? On va attendre la prochaine épreuve. On verra si on se sent protégé. Et Dieu renvoie les riches à vide aussi, il est dit, hein, il n'a rien, Dieu n'a rien, globalement dans la Bible, Dieu n'a rien contre la richesse, dans le sens d'avoir des riches. Mais c'est ceux qui s'appuient sur leur richesse, qui en font leur Dieu. Hein. Parce qu'une fois que vous êtes mort, vous avez beau avoir un compte avec 1 milliard d'euros sur le compte, quand vous êtes mort, vous êtes mort. Là-haut, en enfer, enfin, surtout pour ceux qui comptent vraiment sur leur richesse, en enfer, vous ne pouvez pas acheter quelque chose avec des euros, hein, ça ne sert à rien. Alors, c'est quelque chose de vide, comme elle dit, hein. Les richesses ne laissent que du vide, parce que finalement, Dieu veut nous combler avec autre chose. Il veut nous combler avec des biens spirituels, avec le salut, et ça, c'est pas la moindre des choses, mais aussi avec la plénitude d'une vie chrétienne remplie et de joie, etc. Vous savez, l'argent, ça apporte une joie éphémère, mais connaître Dieu, vivre avec Dieu, là, c'est quand même plus sympa. Et puis ça, c'était les œuvres, on pourrait dire négatives, c'est-à-dire ceux qui ne craignent pas Dieu, mais elle parle aussi de ceux qui craignent Dieu. Hein. Dieu a montré son pouvoir, elle dit, en déployant sa force. D'une certaine manière, Marie parle là de l'omnipotence de Dieu. Hein. Elle sait que tout est possible, elle l'a déjà répété plusieurs fois, et tout particulièrement la naissance miraculeuse. Hein. Dieu est capable de tout. Et il peut, et agit même en faveur d'elle au quotidien. Dieu peut tout. Donc ça veut dire que demain matin, il peut m'aider dans mon travail, il peut m'aider sur ma route, il peut m'aider dans ma famille, dans l'éducation des enfants. Dieu peut tout. Ouais, j'aimerais bien être dans le cœur de chacun demain matin. Hein? Dans le mien aussi, venez voir le mien, je suis comme vous. Hein? On le sait, mais on ne le vit pas. Pas suffisamment, je pense. Hein? Dieu peut absolument tout. Et si vraiment Dieu pouvait tout, chaque fois qu'il y a un problème, qu'est-ce que je fais? Hop. Je vais quelque part, je prie, Seigneur aide-moi. Je me souviens dans mon travail autrefois, des fois on cherchait des choses, des colis qui étaient perdus. Je me suis dit, tiens, je vais aller prier bêtement. Je suis allé prier et on a trouvé tout de suite le colis. C'est fou, c'est bête, mais ça nous saoulait à ce moment-là, c'était vraiment important et Dieu a permis. Il ne va pas le faire tout le temps, je l'ai refait d'autres fois, ça n'a pas marché. Mais des fois, ça a marché. Et des fois, on dit qu'il faudrait de Dieu dans les choses les plus grandes épreuves, le deuil. Mais Dieu veut nous aider dans les petites choses de la vie. Après, si il le veut, c'est sa volonté, évidemment, hein, qui prime. Mais pourquoi ne pas lui demander de m'aider à l'école, de m'aider dans mon travail, dans ma relation de couple, avec mes enfants, etc. etc. Dieu élève ceux qui sont humbles, verset 52. Il dit qu'il abaisse les orgueilleux, mais il honore ceux qui sont humbles. Jacques 4, 6 va dire, c'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Si vous prenez pour quelqu'un, Dieu va résister contre vous. Hein, si vous sentez, je suis super chrétien, super théologien, mais Dieu va résister à cela. Il préfère l'humilité. L'humilité, ça ne veut pas être débile, ça ne veut pas être dire, je ne sais pas, parce que souvent, dans le monde, j'ai l'impression qu'être humble, c'est être faible. C'est pas ça. Christ était humble. Quelle force il avait dans cette humilité. Il a pu défier tout le monde. Il allait jusqu'à la croix. Il n'a pas eu de haine. Et il aurait pu très bien envoyer les anges d'un seul coup et raser tout ça. L'humilité est une force. Et on a tendance à l'oublier parce que le monde ne le voit pas comme cela. Quelqu'un qui est humble, c'est quelqu'un qui va pouvoir traverser tout. Absolument tout. Seulement, c'est du travail, l'humilité. Mais l'humilité est aussi nécessaire pour approcher de Dieu, parce que je n'ai pas besoin d'un Dieu qui me sauve si moi je dis que par mes œuvres, par ma religion, par ma gentillesse, par je ne sais pas quoi, je peux être sauvé. Non, si je m'approche de Dieu, il faut que je sois humble. Et de toute façon, c'est seulement celui qui est humble, c'est-à-dire qui a reconnu son péché, qui a reconnu qu'il a besoin d'un sauveur, qui va s'approcher de Dieu, et donc forcément dans l'humilité. L'humilité, c'est simplement se tenir là où Dieu me voit vraiment. On se regarde dans un miroir et on se dit, mais je ne suis pas grand-chose vis-à-vis de Dieu. Pas grand-chose. Mais j'ai une grande valeur pour lui quand même, malgré tout. C'est reprendre ma vraie place. Et puis elle dit, Dieu pourvoit aux besoins de ceux qui ont faim, au verset 53, et il rassasie, c'est-à-dire il satisfait, il remplit complètement. Il ne dit pas, Dieu donne un peu de pain. Et puis bon, on a encore l'estomac qui grouille, on va dire. Elle dit, il satisfait, il remplit complètement. Alors si peut-être des fois on se dit, j'ai pas la dernière PlayStation ou je sais pas quoi, ça c'est peut-être plus pour les jeunes, je suis pas satisfait, hein. Dieu ne pourvoit pas mes besoins. Alors on est comme ça, alors on parle de PlayStation, mais je suis sûr que dans notre cœur, là, il y a des choses où on est un peu insatisfait. Non, Dieu rassasie, hein. Rassasie réellement, et on devrait être content de tout ce que l'on a actuellement que Dieu nous donne, le contentement. Alors je suis comme vous, hein, j'ai toujours les griefs, j'aimerais toujours un peu plus, parce qu'on peut toujours un peu plus, mais voilà. Mais il faut se souvenir qu'on doit être content de ce que Dieu nous donne. Surtout en France, excusez-moi de le dire, on est des riches, hein, sérieusement, par rapport à d'autres dans ce monde qui n'ont rien. Et en plus, qui sont en prison pour leur foi. Et on se plaint. Dieu satisfait pleinement aux besoins des hommes, à condition aussi qu'on le laisse faire. Il nous donne le pain quotidien, et j'ai marqué beaucoup, beaucoup plus que ce qu'on a besoin. Et puis elle dit encore que Dieu est fidèle, verset 54-55, durant des siècles, parce qu'elle connaît l'histoire d'Israël, elle. Durant des siècles, Dieu a pris soin d'Israël. Et quand on connaît vraiment l'histoire d'Israël, à un moment on dit comment Dieu a pu avoir autant de patience avec un peuple comme cela. Moi, c'est un peu l'image de ma vie chrétienne aussi, parce que comment Dieu peut avoir autant de patience avec Emmanuel, de temps en temps. Il est pénible, Emmanuel. Il est lourd, des fois. Il ne fait pas toujours ce que Dieu veut, hélas. Mais Dieu est patient. Et elle reconnaît justement ça en Dieu. Il s'est souvenu de sa miséricorde. Et Dieu secourt Israël, son serviteur, elle le dit. Hein, c'est pas Israël en tant que nation, parce que souvent on a tendance à les confondre. Dieu n'est pas forcément d'accord avec ce qu'ils font aujourd'hui, surtout parce qu'ils l'ont rejeté. Hein. Mais elle parle de cet Israël, et là il faudrait aller étudier Galates et ailleurs, parle de cet Israël qui sert et qui obéit vraiment Dieu. C'est-à-dire ceux qui sont de la descendance d'Abraham, comme le dit Galates 3,16. Or, les promesses ont été faites à Abraham et sa postérité. Il n'est pas dit « et aux postérités », c'est-à-dire l'aspect national, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule. Et ta postérité, c'est-à-dire Christ. Abraham, la postérité d'Abraham, ce n'est pas la nation d'Israël, c'est ceux qui obéissent à Christ. C'est nous, tout simplement. Et tous les Juifs qui ont accepté, évidemment, Jésus-Christ dans leur vie. Mais elle sait que Dieu est fidèle, et elle voit le parcours que Israël a fait. Bon, elle ne sait pas, parce qu'elle n'avait pas encore toute la Bible, tout ce qui va encore arriver dans la suite. Mais on sait qu'une partie d'Israël va se convertir quand Jésus va revenir sur la terre. Mais là, ça va être un moment, je pense, de grands cris et de grandes douleurs. On a crucifié le Messie. On n'a pas cru qu'on allait crucifier le Messie. Mais là, vont le reconnaître. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça va faire dans le cœur. D'ailleurs, des crises cardiaques, à mon avis. Hein. De se dire, on s'est planté depuis plus de 2000 ans, enfin, peut-être plus, si Jésus revient plus tard. Mais en tout cas, une partie va se convertir, et ça sera beau de voir cela. Pour nous, qu'est-ce que ça nous apprend ? Ben, Dieu s'occupe de nous. C'est bête ce que je dis, hein. Mais Dieu s'occupe de nous, non? Ouais, il va s'occuper de vous. Non. Mais comme elle le dit, à condition que nous le craignions. Il y a une crainte aussi derrière. Si, Dieu ne va pas s'occuper de moi si je ne m'occupe pas de lui, si je ne lui demande rien, si je n'ai pas conscience qu'il est vivant et qu'il peut m'aider. Mais il va s'occuper de nous si on lui demande, tout simplement. Alors des fois, elle ne le fait pas, des fois, elle le fait. Mais quand elle ne le fait pas, c'est que c'est bon pour moi aussi. Quand elle le fait, c'est que c'est bon pour moi. Ce savoir aider de Dieu aussi devrait nous réjouir. J'aimerais bien que pendant cette période de Noël, on puisse avoir un plus grand sourire sur notre tête, hein, parce qu'on sait que Dieu m'aide, Dieu peut tout pour moi. Et se réjouir, c'est pas, bon, le sourire bête et béat, c'est pas ça. Mais dans le cœur, c'est d'avoir de la reconnaissance, la vraie reconnaissance de ce que Dieu a fait dans notre vie. On a eu des hauts, on a eu des bas, je sais, tous nos difficultés. C'est pas toujours simple, pour moi aussi, croyez pas. Mais au fond, je veux être reconnaissant et je fais l'effort d'être reconnaissant. Parce que vous savez, on ne devient pas reconnaissant comme ça du jour au lendemain. Ça demande. Vous avez vu quand je vous ai demandé qu'est-ce que Dieu a fait tout à l'heure? Janvier, qu'est-ce qu'il a fait janvier, mars, qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi on ne note pas ça de temps en temps sur un cahier et puis à la fin de l'année, on partagerait ça? Ce serait intéressant, hein? Dans un an, je vous rappelle ça. Alors, vas-y, on va le faire. C'est pas pour moi, parce que moi. Mais vous ne pensez pas qu'à la fin d'une année, si on pouvait dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait vraiment? Pas juste dire merci parce qu'on veut dire merci comme ça, vite fait. Ça, on peut le faire, c'est facile. Mais dire merci pour des choses concrètes qu'il a réellement réalisées dans notre vie. Et puis, une dernière leçon, Dieu est fidèle comme il le fut avec Israël. On a vu, enfin, ceux qui connaissent l'histoire d'Israël, il est passé par des hauts et des bas, des très très bas. Ils ont même rejeté Dieu. Et pourtant, Dieu est resté fidèle. Et s'il nous arrive, par exemple, en tant que chrétien, d'avoir aussi des hauts et des bas, Dieu vous aime encore. Et Dieu est toujours fidèle. Et à partir du moment qu'on sera prêt, il tendra la main et nous relèvera tout simplement. Et quoi qu'il vous arrive dans votre vie, souvenez-vous, et peut-être souvenez-vous de Marie, Dieu restera fidèle. Ça ne dépend pas de vous, ça ne dépend pas de votre capacité, ça dépend uniquement de Dieu. Et comme Dieu est parfait dans sa fidélité, quelle chance on a quelque part d'avoir un Dieu aussi fidèle. La vraie question, c'est est-ce que vous faites partie de ce peuple? Est-ce que vous connaissez vraiment Jésus-Christ? C'est ça la question. Connaître Dieu, ses œuvres devraient réjouir le croyant et le remplir tout simplement de reconnaissance. Tout à l'heure, on va partir smiley. C'est comme ça qu'on dit, avec un smiley dans le cœur. Vous pouvez me faire la tronche si vous voulez avec vos têtes. Mais dans votre cœur, j'aimerais que vous soyez heureux. Pour conclure, Marie connaissait son Dieu. Et j'ai envie de dire, Marie avait la doctrine de Dieu en elle. Elle savait qui était Dieu. Elle a certainement étudié la parole. Bon, la Bible ne le dit pas, mais elle connaissait Dieu, le Tout-Puissant, ses attributs, etc. Elle avait une certaine connaissance de Dieu qui lui permettait justement de devenir cette servante obéissante à un moment bien donné. Et parce qu'elle avait cette connaissance, cette doctrine de Dieu, elle pouvait s'appuyer sur Dieu. Si je ne connais pas la Bible, je ne peux pas m'appuyer sur un inconnu. C'est pas possible. C'est pas possible. Et je vous encourage à prendre le temps de lire la Bible, d'aller là où vous n'avez pas envie d'aller. Ces livres qui nous paraissent complètement incompréhensibles. Et ça sera peut-être incompréhensible. Vous avez mon mail. Envoyez un mail si vous ne comprenez pas. Ça ne me gêne pas, moi. Au contraire, je vais vous accompagner là-dedans. Mais prenez le temps de lire toute la parole de Dieu, toute la révélation du Seigneur Jésus-Christ. Marie s'est réjouie de servir Dieu. Est-ce que nous sommes aussi enclins à servir Jésus-Christ? Est-ce que cette nouvelle année, je me suis dit, tiens, cette fois maintenant, je suis dans une église, je viens m'asseoir, je repars le dimanche, qu'est-ce que je peux faire dans cette église? Vous n'avez pas? Venez me voir, on va prier ensemble, prier de votre côté, et je suis sûr que Dieu, à un moment, va dire, ben voilà, ou d'une manière ou d'une autre, par les uns et les autres, il va nous montrer ce que je peux faire dans cette église. Mais passons pas une année encore assis sur les bancs. Même si vous devez rester assis le dimanche matin, vous êtes d'accord. C'est pas comme vous commencez à sauter dans tous les sens. Mais voilà, prendre le temps de réfléchir, penser à cette Marie qui a accepté de servir. Dieu l'a mis au service tout de suite. Elle n'était pas plus qu'un autre. Et Dieu s'est servi d'elle. Noël, c'est l'occasion d'adorer Jésus et de nous réjouir de sa personne et de son œuvre. Encore un Noël, ça fera mon 48e Noël que je passe. Ah, les cadeaux, les repas. Et puis on est déjà à la nouvelle année. Et puis voilà, on attend le prochain Noël. C'est dommage de passer des fois Noël de cette manière-là. Bon, il y a des familles, je comprends bien. Mais nous-mêmes, en tant qu'individus, dans notre culte personnel, dans les moments d'intimité avec Dieu, peut-être qu'on peut s'arrêter réfléchir à tout cela et se réjouir de la naissance de Jésus, de la venue de Jésus-Christ. Et pourquoi pas en famille, si vous avez l'occasion, c'est encore mieux. Mais s'arrêter pour réfléchir. Et moi, je vous pose simplement la question, quel cantique vous allez composer pour déposer au pied du sapin, ou là où vous voulez, parce que tout le monde n'a pas forcément les sapins, et quel cantique vous avez envie de composer pour Dieu aujourd'hui? Je ne veux pas savoir, c'est dans votre cœur. On va prier. Seigneur, merci pour ce cantique de Marie qui nous démontre toute la joie d'être ta servante, la joie de se mettre à ton service, la joie aussi de faire partie de ton plan, et quel honneur, Seigneur, pour elle et pour nous, et fasse que cette joie rentre dans notre cœur durant cette période de Noël, pas une joie bête comme le monde la connaît, mais cette joie de te connaître un peu plus, de savoir que tu es celui qui nous a sauvés de l'enfer, du péché, savoir que tu es aussi celui qui est notre Seigneur, à qui nous voulons obéir et qui fait tellement de bonnes choses pour chacun d'entre nous. Nous nous réjouir aussi de ta miséricorde, de ce pardon quotidien que tu nous accordes, de la restauration que tu fais dans notre vie chaque jour. Seigneur, nos mots sont vraiment faibles par rapport à ce que tu mériterais. Mais Seigneur, tu t'es plu à nous aimer, à nous chérir, comme tu nous l'as dit Marie ce matin. Et merci pour ta fidélité. Je vais prier pour ce monde qui ne te connaît pas, qui ne sait pas vraiment le sens de Noël, que nous qui sommes des témoins de ta parole, témoins de Jésus-Christ, nous puissions tout simplement briller dans ce monde et apporter la bonne nouvelle à ceux qui veulent bien l'entendre. Que ton nom soit glorifié ce matin en Jésus-Christ. Amen.